président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Peinture rouge, il y rue d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain sur les rainettes pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais saint, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes toutes les Villeneuves. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse, tout de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé, c'est mon voisin. Il a rien aux zizi, tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, Sergi des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains.
Chers auditeurs de Pas de quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur internet sur le site de Radio Libertaire dans le reste du monde. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour une émission spéciale sur la Palestine. Mais avant ça, je vous indique qu'il y aura à la librairie Publico, donc la librairie du Monde Libertaire qui se trouve à République, le dimanche 2 novembre entre 14h et 18h30, un programme antimilitariste organisé par Radio Libertaire et ouvert au public. Donc nous vous invitons à vous rendre à Publico entre 14h et 18h30 le dimanche 2 novembre pour y participer. Je suis en compagnie de François. Bonjour François.
Salut.
Et de notre invité, Monira. Bonjour Monira.
Bonjour.
Donc Monira, c'est la troisième fois que nous te recevons. Nous t'avions reçu une première fois en octobre 2023 pour prévenir qu'un génocide était en cours en Palestine. On ne s'est pas nombreux à le dire en octobre 2023.
Oui, c'est vrai.
On t'a reçu pour les 1 an de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza en octobre 2024. Et nous te recevons aujourd'hui pour les 2 ans. Comment tu vas, Monira?
Comme ça peut aller dans
le contexte actuel.
Dans le contexte.
Est-ce que tu peux rapidement te représenter et présenter BDS, dont tu es une militante, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore?
Voilà, je suis Monira, je suis militante dans la campagne BDS Boycott des investissements sanctions depuis 11 ans maintenant. J'ai cofondé le groupe à Saint-Étienne, BDS, et c'est une campagne palestinienne qui vise à imposer un boycott, des investissements et des sanctions pour mettre fin à l'occupation, à l'apartheid.
Et ça fait combien de temps que ça existe, BDS? C'est assez vieux, hein,
ça existe depuis 2005, donc voilà. Là c'est les 20 ans de la campagne.
Voilà, d'accord. Donc je te remercie d'être venu pour revenir sur ce qui se passe en Palestine. Alors c'est vrai que c'est un conflit génocide qui a pris une dimension internationale. Israël détient un nouveau record depuis la Seconde Guerre mondiale d'intervention militaire. Hein. Il y a les interventions en Syrie, au Liban, les frappes au Yémen, en Iran, aux Émirats Arabes Unis. Ou au Qatar, je ne sais plus, c'est un des deux. Il y a tout un tas d'interventions militaires un petit peu dans tout le Moyen-Orient. Est-ce que tu pourrais revenir, pour notre contexte franco-français, sur pourquoi est-ce que nous, en tant que Français, on est aussi concernés par la question palestinienne ?
Ouais, alors j'ai l'habitude de dire que la Palestine, c'est une question française, dans le sens où déjà il y a une filiation historique entre la création de l'État d'Israël et la colonisation française. C'est-à-dire que c'est bien la colonisation française et la colonisation britannique qui ont permis aux sionistes de s'accaparer ce bout de territoire qui avait déjà été... qui avait déjà été morcelé dans le cadre du morcellement du Moyen-Orient colonial par l'Empire britannique et l'Empire français. Ce qui fait que la France, dès l'origine, elle est complice de la colonisation de la Palestine, avec des arguments très coloniaux habituels de la civilisation contre la barbarie, d'avoir un avant-poste de la civilisation dans le Moyen-Orient, et de pouvoir avoir un mur contre l'Asie.
Et justement, puisque tu parles de la création d'Israël donc en 1948, où il y a donc en parallèle ce qu'en Palestine on appelle la Nakba, qui est l'expulsion d'une très grande partie de la population palestinienne de son territoire de vie en direction des frontières actuelles d'Israël, quoi. On a effectivement une participation très importante des Occidentaux qui ont soutenu militairement la création d'Israël et l'expulsion des Palestiniens. Et il est bon aussi de rappeler que dans cet engagement des Occidentaux, il y a aussi derrière toute une continuité coloniale. Israël est une colonie de peuplement dans laquelle des Européens principalement sont venus s'installer en masse, donc à la place des populations qui y vivaient. Et que la colonie de peuplement, c'est une malheureusement une vieille tradition occidentale qui se solde très régulièrement par des génocides. On en a vu en Afrique, il y a eu l'intégralité des génocides d'Amérique. Peut-être peut-on revenir aussi sur pourquoi est-ce que le projet sioniste est d'emblée génocidaire, en fait.
Ouais, en fait, ça, c'est un des points importants, parce que toute une part du discours fait semblant de séparer la question du génocide et la question du colonialisme, alors que le colonialisme de peuplement, il porte en lui le projet de génocide. Les structures coloniales, elles portent en elles le projet de génocide, et c'est pas le premier génocide colonial. Il y a eu celui de des Amériques, où les autochtones ont été décimés. Il y a eu des opérations génocidaires dans les pays d'Afrique, dans toute l'Afrique. Et donc ça, c'est qu'une continuité en fait d'un projet colonial qui veut remplacer une population par une autre et qui doit passer par le génocide pour détruire la population qui est sur place, la remplacer. Ce qui est important de rappeler, c'est que le sionisme, dès le début, il promeut une colonisation de peuplement qui vise à remplacer les Palestiniens par une population venue d'Europe, et que, dès le départ, toutes les nuances de sionistes s'accordent sur ce point-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accident. Théodore Herzl, lui, disait pour l'Europe, nous formerons là-bas un élément de mur contre l'Asie, ainsi que l'avant-poste de la civilisation contre la barbarie. Donc, discours très colonial, voilà. Herzl, c'est le plus connu. C'est lui qui a vraiment mis ce projet en place. Mais les autres sionistes, comme Moses Hess, qui était un philosophe socialiste allemand et qui, lui, était genre la gauche sioniste, lui, il disait « Devenez les éducateurs des ordres arabes sauvages et des peuples africains ». Donc vraiment, discours hyper colonial, voilà. Et jusqu'à la droite sioniste, là, Jabotinsky, qui disait « Les Arabes de Palestine n'accepteront jamais la transformation de la Palestine arabe en un pays à majorité juive ». Et en disant que dans toutes les contrées, il n'en trouvera pas un seul où elle ne se soit faite avec l'accord des indigènes. Donc, dès le début, toutes les nuances de sionistes sont très claires, très au clair avec l'idée qu'il va falloir imposer le sionisme et la colonisation par la force et par la violence. Donc, vraiment, ce projet, après, quand il se concrétise, David Ben-Gourion, en 1937, il dit « Nous devons expulser les Arabes et prendre leur place ». Les choses, elles sont très claires sur quel est le projet. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, ben, en fait, c'est juste une continuité. C'est-à-dire que ce soit la droite ou la gauche, il n'y a pas un moment où la colonisation s'est arrêtée, où les expulsions, les meurtres contre les Palestiniens se sont arrêtés. Et donc, je pense qu'il faut lire la situation de Gaza actuellement comme une continuité et comme une accélération qui est due à la fascisation international.
Voilà, en tout cas, on va préciser que dans cette émission, on refuse totalement le narratif qui consisterait à remettre sur le Likoud ou Benjamin Netanyahou la direction qu'a prise Israël depuis le 7 octobre et qu'en réalité, voilà, c'est un processus continuel de colonisation occidentale et génocidaire qui a cours depuis 1948.
Mais du coup, peut-être pour revenir sur pourquoi la Palestine, c'est une question française,
oui.
C'est que au-delà de la complicité dans la création de l'État d'Israël, cette complicité, elle s'est toujours poursuivie, elle se poursuit même pendant le génocide par des relations économiques, diplomatiques, politiques, des livraisons d'armes. Vraiment, la France va aller dans la surenchère pour la répression de la solidarité avec la Palestine, décréter dès octobre 2023, sortir une circulaire par Dupond-Moretti, une circulaire qui appelle à poursuivre les militants qui condamnent pas pour apologie du terrorisme. Donc il y a vraiment un investissement particulier de la France pour censurer la solidarité avec la Palestine, avec un discours très fascisant, très islamophobe pour censurer cette solidarité. Il faut savoir que dans cette même après la reconnaissance internationale du génocide par l'ONU, par des organismes internationaux, la France a continué à être dans cette complicité. Et par exemple, depuis le 1er août dernier, la France, elle a cessé d'accueillir les étudiants palestiniens, alors qu'il y avait des centaines de dossiers d'inscription qui étaient validés, qui les personnes attendaient de pouvoir être évacuées pour venir. Et la France a carrément stoppé les évacuations. Donc, en fait, la question aussi de la Palestine, c'est comment les Palestiniens sont opprimés en Israël, mais pourchassés en Occident, dans tous les pays occidentaux. Et ça, c'est un truc dont peut-être on va revenir un peu tout à l'heure au courant de l'émission, mais voilà, c'est vraiment une question sur la continuité de l'oppression des Palestiniens dans les autres pays où ils se trouvent. Et donc, en France, il y a une résonance toute particulière de cette question parce que il y a plein de gens qui sont français, mais qui sont quand même issus de l'histoire coloniale française, qui a été vraiment des plus violentes en Algérie notamment, mais dans toute l'Afrique et en Asie. Et voilà, on peut parler du Vietnam et des armes chimiques. Voilà, il y a vraiment toute une population en France dont l'histoire coloniale résonne quand même particulièrement. Et donc tout le discours raciste qui est utilisé pour déshumaniser les Palestiniens et justifier le génocide, ben, il touche aussi plein de gens dans ce pays qui savent bien qu'ils sont aussi visés.
Et qui en plus sont des électeurs.
Discours. Tout à fait, et qui sont aussi visés par ces discours.
Alors pour revenir un petit peu plus précisément maintenant sur la bande de Gaza, il faut bien se figurer quelque chose, c'est que c'est un territoire qui est vraiment tout petit. C'est 41 km de long pour 6 à 12 km de large. Et c'est un peu plus de 2 millions d'habitants. Donc c'est vraiment une forte densité de population. Et qui est structurée, grosso modo, autour de grandes villes, donc Gaza City au nord, Dar el Balah au centre, et Khan Younes et Rafah au sud. C'est donc une bande, comme j'ai dit, qui est très densément peuplée, sur laquelle Israël va mettre le siège dès le 8 octobre 2023, et dans laquelle on va avoir d'emblée un blocus, sachant qu'il y en avait déjà un qui était en cours, voilà. Et c'est là aussi où on voit à quel point 7 octobre est une datation qui n'est pas palestinienne, parce que ce blocus que Israël met d'un point de vue terrestre sur la bande de Gaza, il est déjà en cours en fait, en réalité, depuis très longtemps, notamment le blocus maritime. Évidemment, totalement illégal du point de vue du droit international, mais enfin bon, ça c'est quelque chose dont Israël ne s'embarrasse pour ainsi dire jamais. Et donc dans ce blocus, il y a aussi donc les opérations militaires. Alors c'est vrai que ça a pu être compliqué peut-être pour certaines personnes qui nous écoutent d'avoir gardé le fil du déroulement des opérations parce qu'il y a eu plusieurs cessez-le-feu. Donc on va pas revenir dans le détail sur le déroulement des opérations parce que ce serait trop long et fastidieux, mais pour que vous ayez à peu près une chronologie en tête, il y a un premier cessez-le-feu qui arrive en décembre 2023 qui est brisé par Israël parce qu'il y a des civils palestiniens qui essayent de regagner leur maison pour essayer d'attraper des affaires personnelles, des vêtements, de quoi se réchauffer, pour, etc., etc. Donc ils se font tirer dessus par Israël et qui en fait, Israël considère que ces civils qui voulaient essayer de rentrer chez eux dans Gaza constituaient en fait une forme de contrevenu aux accords de cessez-le-feu et donc a repris les opérations militaires. Sachant qu'il y a toujours le narratif israélien de les soldats du Hamas sont cachés dans la population palestinienne et chaque palestinien est un potentiel terroriste en fait. Mmh. Et donc chaque palestinien est une cible de l'appareil militaire israélien. Et faut bien voir aussi qu'on a dès le départ un ciblage des infrastructures qui n'ont rien à voir avec des infrastructures militaires. Mmh. On a dès le début des hôpitaux qui sont ciblés, des habitations, des infrastructures logistiques, des écoles,
les médias,
les journalistes qui sont tués. Donc voilà, et c'est pour ça qu'en fait nous dès octobre 2023, on disait là, c'est pas un simple conflit armé. On s'opposait au narratif qui a été imposé en France, qui fort heureusement, a de plus en plus de mal à tenir la route, parce qu'on se rend compte, en fait, avec le temps, que c'est beaucoup trop grossier pour être maintenu. Mais le narratif qui a été mis en place en France au départ, c'est une guerre entre Israël et le Hamas. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui s'inscrit dans la manière dont le colonisateur va masquer les violences coloniales à travers, des violences dites de guerre. Et on va présenter comme étant des exactions, ce qui est en réalité quelque chose de systématique dans le déroulement des opérations israéliennes à Gaza, mais en réalité aussi dans le reste du Moyen-Orient. Et alors, après ce premier cessez-le-feu qui est brisé par Israël, on a les offensives sur le sud, une offensive sur Rafah qui débute en février 2024. Elle continue jusqu'en juillet. Après, une nouvelle offensive sur Khan Younes. Le siège sur le nord de Gaza qui se durcit encore en octobre 2024 et le deuxième cessez-le-feu qui est annoncé en janvier 2025. Avec là encore, à chaque cessez-le-feu, on a des échanges de prisonniers. Donc le Hamas restitue une partie des otages qui ont été pris le 7 octobre. Et en échange, Israël restitue une partie des combattants qui ont été capturés et des prisonniers politiques palestiniens qui sont enfermés pour certains depuis des décennies dans les prisons israéliennes, où l'on sait, grâce aux ONG, là c'est même pas le Hamas ou les Palestiniens qui le disent, c'est des ONG bien européennes, bien comme il faut, qui disent qu'il y a une torture systématique des militants palestiniens qui sont enfermés dans les prisons israéliennes. Donc ces prisonniers sont échangés. Finalement, Israël brise une seconde fois l'accord de cessez-le-feu. Et on en arrive, là, nous sommes en octobre 2025, au moment de cette émission, au troisième cessez-le-feu, avec le plan de paix proposé par Donald Trump. Voilà pour une chronologie un peu générale de ce qui s'est passé là-bas. Et je pense qu'il serait bien maintenant de revenir peut-être un petit peu en détail sur cette question du génocide. Pourquoi est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose qui commence à se dire un peu plus, les langues commencent à se délier un petit peu plus par rapport à octobre 2023 ou au début de l'offensive, où il y a eu vraiment, à part l'Afrique du Sud qui avait déposé à la Cour internationale de justice une motion pour attaquer Israël pour crime contre l'humanité, c'était vraiment tabou entre guillemets de parler de ce génocide. Comment toi tu expliquerais en fait l'évolution de ce processus, d'acceptation de l'idée que y compris pour l'opinion publique occidentale, il y a un génocide en cours en Palestine.
En fait, il y a eu quelque chose de très franco-français aussi sur la question de la négation du génocide.
C'est vrai.
Où dès qu'il a été question de parler du génocide, les plateaux télé se sont un peu enflammés sur c'est pas un génocide, etc. Et finalement, c'était une façon de nier tout ce qui se passait, en fait. C'était pas, enfin, je veux dire, la bataille sur les mots quand il s'agit des Palestiniens, c'est toujours une façon de nier le phénomène qu'il y a derrière et la destruction massive de tout un territoire et le meurtre de centaines de milliers de personnes. Et du coup, ce qui a été utilisé, et comme d'habitude, par un État qui est très raciste, la France c'est un État qui est raciste et qui l'a toujours été, et qui utilise la question de l'antisémitisme pour dire « vous pouvez pas dire que c'est un génocide, parce que vous pouvez pas dire que les Juifs commettent un génocide alors qu'ils l'ont subi ». Et donc ça, c'est un truc assez intéressant, en fait, de voir cette contorsion. De faire comme si en fait ce qu'ils veulent, c'est pas lutter contre le racisme et proposer une égalité,
ni même contre l'antisémitisme d'ailleurs,
ni même contre l'antisémitisme, c'est vraiment moi je place l'antisémitisme avec la somme de tous les racismes, et en fait c'est pas du tout l'idée de lutter contre le racisme, c'est l'idée d'utiliser la question du racisme comme un joker, où en fait ça
invalide tout propos
voilà,
sur la Palestine.
Ça silencie en fait la question des Palestiniens, et ça se marie très bien avec la question du racisme anti-palestinien. Comment utiliser la question de l'antisémitisme pour en faire une censure de la parole palestinienne. Et ça, c'est assez impressionnant comment ça s'est... comment c'était très présent dans les médias français et tout. Il y a vraiment une séquence médiatique qui s'est ouverte en France, qui a été vraiment d'une violence inouïe et qui a consisté à tout dater du 7 octobre, à tout justifier par le 7 octobre, et vraiment avec, avec l'idée que rien ne justifie le 7 octobre, mais que le 7 octobre peut tout justifier. Et donc tout était justifié par le 7 octobre, etc., en... vraiment avec ce paradigme colonial de décider quand on fait commencer l'histoire sans prendre en compte que depuis 1948, il y a une occupation de la Palestine, et depuis 67, une occupation de toute la Palestine historique, avec un blocus de Gaza depuis 2006 qui est un blocus total, maritime, aérien et terrestre. Et deux seuls points de passage pour entrer ou sortir, un vers Israël et un vers l'Égypte qui collabore avec Israël, et donc avec un enfermement total des Palestiniens dans une zone où il y avait de moins en moins de possibilités d'avoir du matériel pour la santé, pour l'éducation, pour la vie quotidienne, quoi.
Et le génocide, du coup, se caractérise à l'intérieur de la bande de Gaza, notamment... sur le fait que ce système de santé, c'est tout ce qui permettait la vie, si on peut appeler ça une vie, à l'intérieur de cette prison à ciel ouvert qui était la bande de Gaza, s'est trouvé en fait totalement détruit par les frappes aériennes et l'artillerie israélienne en fait.
Ouais, complètement. En fait, il y a eu une destruction systématique des médias, des hôpitaux, de la culture aussi, des bâtiments culturels, ceux qui étaient classés UNESCO, ceux qui étaient des trésors archéologiques qui avaient plusieurs milliers d'années, etc. Il y a eu vraiment une volonté de tout détruire et d'en faire un terrain vague. Et enfin, je veux dire, les images, elles sont vraiment
parlantes. Oui.
Elles sont vraiment très très parlantes, hein, de ce qu'ils ont fait de la bande de Gaza. Et la question du génocide, c'est très intéressant parce que, en fait, il y a toujours des discussions sur les mots, comme si le génocide, en fait, c'est un crime en droit international qui a une définition très claire et précise. C'est-à-dire qu'au moment où la rapportrice de l'ONU, elle parle de génocide, elle parle de l'ONU en se basant sur le droit international, en fait. Elle n'est pas en train de faire de l'idéologie. Elle dit, en fait, c'est quoi ce qui est constitutif du génocide, c'est quoi? C'est atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe, mesure visant à entraver les naissances et transfert forcé. En fait, ça, c'est des règles très, très précises qui disent qu'est-ce que c'est un génocide. Une fois que tu as plusieurs de ces critères qui sont réunis, c'est un génocide, point, en fait. Et donc, il y a toujours ce truc, parce que je me rappelle qu'il y a eu le même scandale au moment de la sortie des rapports sur l'apartheid. En fait, c'est comment aussi les Palestiniens sont toujours dépossédés de la possibilité d'utiliser le droit international.
Ouais.
Comment eux, ils sont toujours écartés de cette possibilité-là, en faisant toujours des objets de discussion idéologique, alors que c'est juste le droit international et c'est vraiment le minimum, quoi.
Et puisque tu parlais de l'ONU, voilà, c'est dans les chiffres officiels qui ont été publiés par l'ONU, on a 92% des habitations de la bande de Gaza qui ont été détruites, 78% des infrastructures, et sur une population qui compte un peu plus de 2 millions d'habitants, on en a 1,9 million, donc plus de 90% qui ont été déplacés depuis le début du conflit. Donc là, on voit que ça colle totalement avec la définition juridique que tu as donnée du mot génocide. Il y a évidemment toutes les entraves, il y a eu à l'accès aux médicaments et aux soins, il y a eu le moment où on a beaucoup médiatisé l'accès au lait pour bébé, à la nourriture pour bébé, pour les mères gazaouis qui en fait ne pouvaient même plus nourrir leur bébé. On a un bilan humain. Alors là, c'est pareil, c'est très compliqué de parler de chiffres parce que ça a tendance à déshumaniser et à transformer des êtres humains en statistiques dont on ne sait plus vraiment ce qu'elles veulent dire. Alors concernant le bilan humain, en plus, il faut distinguer plusieurs chiffres parce qu'il y a les morts directes. Dans les morts directes, il y a celles qu'on arrive à identifier. Il y a les gens qu'on n'arrive pas à identifier, qu'on ne retrouve pas. Et ensuite, il y a les causes indirectes, les gens qui meurent des suites des opérations militaires sans avoir été directement victimes d'une frappe aérienne ou quoi que ce soit. Sur les victimes directes et identifiées, donc c'est un chiffre très réduit, on est déjà à 70 000 morts et des centaines de milliers de blessés. Donc le chiffre toute mort prise en compte est évidemment beaucoup plus élevé. Donc en fait, ça colle totalement à la définition d'un génocide quand on regarde les données qui sont disponibles sur ce qui se passe à Gaza en fait.
Oui, bien sûr. Et puis, il y a une volonté de priver totalement les Palestiniens de Gaza d'alimentation, d'eau potable, coupure de courant, d'électricité, etc. Il y a vraiment une volonté claire.
Il n'y a plus scolarisation non plus.
Enfin, je veux dire, ce qui est quand même hallucinant, c'est que Yoav Galan, il a annoncé dès le début. Ouais. Yoav Galan, c'est un des ministres du coup de Netanyahou. Et du coup, Netanyahou et Yoav Galan, ils ont eu des déclarations qui étaient très claires sur l'intention de génocide. Mmh. Parce qu'il y a la notion d'intention aussi qui compte dans le génocide. Et lui, il a dit, c'est des animaux humains, on va les traiter en conséquence. Il n'y aura plus d'électricité, plus d'eau, plus de nourriture. Et donc, il a été hyper clair. D'ailleurs, il fait partie, ils sont deux à avoir été condamnés par la Cour internationale de justice, c'est Netanyahou et Galan, justement. Et malgré ça...
Il y a des mandats d'arrêt contre eux.
Il y a des mandats d'arrêt internationaux et ils ont continué à se balader en avion dans les cieux internationaux, etc. Donc voilà, il y a vraiment une impunité qui est fabriquée et qui est soutenue par l'Occident, qui est assez grave et qui renvoie au racisme ici, quoi. Comment il y a des vies qui valent rien? Et ça, je pense que c'est assez important. Et je te rejoins sur la question des chiffres, sur comment les chiffres, ça peut être déshumanisant. Alors que en fait, c'est aussi des vies, c'est aussi des gens qui ont tous des histoires. Enfin, moi, j'ai lu des témoignages de personnes qui disent, en fait, moi, j'ai perdu tous les gens que je connaissais. Je pense qu'on n'arrive pas à imaginer, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une personne, elle disait qu'elle avait perdu 60 personnes de sa famille. Ça veut dire qu'elle a perdu ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs, mais aussi ses cousins, ses cousines, ses neveux, ses nièces. En fait, la famille même la plus éloignée. Et en fait, enfin, je sais pas, faut que chacun se mette un peu dans cette position de genre être sur une terre où il y a plus rien et où tu connais plus personne. C'est vraiment.
Puis non seulement une terre où tous les gens que tu connaissais, que tu aimais sont morts, il n'y a plus d'habitation, il n'y a plus nulle part où habiter, il n'y a plus, y a même pas d'hôpitaux où aller soigner, il n'y a plus d'école où scolariser, il n'y a plus rien en fait.
Et la question de quand les gens essayent de retourner chez eux, ils ne reconnaissent même plus l'endroit où ils habitaient, et en fait ils cherchent leurs immeubles pour chercher leur famille sous les décombres. Et ça, je pense qu'on ne peut pas imaginer... la situation horrible que c'est d'aller essayer de trouver les corps sous les décombres pour pouvoir les enterrer, quoi. Et donc ça, c'est ce qui est pas compté aussi dans les chiffres, tous ces corps qui sont sous les décombres. Israël a utilisé des armes qui vont très loin, profondément dans le sol, et du coup c'est super dur après de retrouver des corps avec des tonnes de béton qui sont dessus. Enfin voilà, il y a un truc, je pense qu'on mesure pas, et en fait je pense qu'on peut parler de ça et qu'on mesurera jamais qu'est-ce que c'est vraiment un génocide quand tu le vis. Et je pense que juste ce qu'on peut imaginer déjà de loin, c'est hyper flippant, c'est horrible. Et voilà, je pense qu'il y a un truc un peu indicible sur le génocide, mais qu'il faut essayer de dire quand même.
Ce que je propose, c'est qu'on marque une première pause et qu'on revienne à la suite de cette pause sur... comment ce génocide s'est vraiment normalisé à travers tout un tas de narratifs en Occident et particulièrement en France. Jean-Michel.
Mes potes.
Ouais, alors là, on a un petit souci. Le technicien a été alpagué par des individus, mais il est de retour dans sa loge et il va pouvoir lancer la première pause musicale.
على بلدي لا تشوف كيف البحر بيضحك لا تشم تراب بلادي وترسم أحجار ومجدك
ميل على بلدي لا تشوف كيف البحر بيضحك لا تشم تراب بلادي ترسم أحجار ومجدك
ميل على شاطي حيف خد لك من رمل وتذكار صورة بشوارع يافا وعلى صورة العكا مشوار
ميل على شاطي حيف خد لك من رمل وتذكار صورة بشوارع يافا على صورة العكا مشوار
ميل على بلدي لتشوف كيف البحر كيف البحر بيضحك لك القدس وشوارعها والسماها أجمل مكان ميل عنا وسأل عنا إحنا للكرم عنوان
وإذا بدك تتهنى الناس رب تبعت سلام قاعد بتحلق ميت قلب وجودك حلو الكلام
ميل على وادي عار ركوة القهوة عنار شرفنا حارة حارة قلوبنا لعيونك دار
ميل على وادي عار وركوة القهوة عالنار شرفنا حارة حارة قلوبنا لعيونك دار
ميل على بلدي لتشوف كيف البحر
كيف البحر بيضحك لك
لفيت بلاد لفيت ملقت بجمالك ملقت ولا حتى جبالك والورد عصافيرك بتغني يا بني اللي 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 اللي
دلعون بلادي غنيت وعلمي جانا رديت وضحية غازل بالدبك وعتر
لحكى يا ستي حنيت ولمتنا بساحة البيت ورغيف الزيت وزعتر وشجر الزيتون
ومشيت يا ما وشي أغلى من بلادي ملقيت شعر وأدب وعلم وفن وأحلى الألحان
لفيت بلاد لفيت
ملقيت بجمالك ملقيت
ولا حتى جبالك والورد وعصافيرك بتغني
يا بليل
دلعون بلادي غنيت وعالميزان رديت ضحية غازل بالدبك وعتر
لحكى يا ستي حنيت لمتنا بساحات البيت ورغيف الزيت وزعتر وشجر الزيتون
ومشيت يا ما وشقيت أغلى من بلادي ملقيت شعر وأدب وعلم وفن وأحلى الألحان
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur internet pour le reste du monde. Je suis toujours en compagnie de François et de Monira. Monira, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette chanson ?
Alors, c'est une chanson de Chalbi Younis et Razal Kharayeb qui s'appelle Mayal Al-Abladi. Et en fait, c'est une chanson qui parle du retour, qui parle du rapport à la terre, à la mer, un attachement voilà, à la Palestine, à des villes de la Palestine. Du coup, il y a pas mal de villes de la Palestine qui sont citées. Et voilà. Et comme je propose un peu toujours les mêmes musiques, là, j'ai voulu changer et proposer autre chose.
Et donc effectivement, bah, la question du retour, on comprend bien pourquoi elle est importante pour les Palestiniens. Mais là, on était censé revenir sur la manière dont les médias occidentaux ont construit le narratif autour du génocide des Palestiniens et sur comment il a été présenté à l'opinion publique, si on peut utiliser ce terme discutable, française. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les principaux éléments de ce narratif médiatique ?
Ouais, alors il y aurait énormément à dire, et là je renvoie à un travail qui est formidable, qui est fait par Acrimed, Action Critique Média, notamment Pauline Pernaud, qui a fait pas mal de dossiers sur la Palestine ces deux dernières années, et du coup elle a fait un travail vraiment formidable, donc je vais pas aller dans le détail complet, mais en tout cas il y a la production par les médias d'un récit éminemment colonial, avec cette idée que tout commence le 7 octobre et une négation de la Nakba subie par les Palestiniens, de la situation d'occupation, des checkpoints, du mur qui fait plus de 700 km, de cette situation dans la bande de Gaza qui vit sous un blocus total, avec entourée de colonies israéliennes. Et ces bombardements réguliers sur Gaza, c'est-à-dire que là, il y a eu le bombardement qui commence en octobre 2023. Mais avant ça, ils avaient déjà été bombardés en mai 2023. Et puis, il y avait déjà eu un bombardement en 2022, en 2021. En 2018, il y avait eu des milliers de blessés dans la marche du retour. Beaucoup de gens amputés dans Gaza à cause de ces marches du retour qui ont été reçues par Israël avec des snipers qui ont tiré dans le tas. Et donc, il y a eu des opérations régulières sur Gaza, et donc c'est pas la première fois que Gaza est bombardée. Juste là, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait d'incursion terrestre. Et ça n'a pas été vraiment traité correctement par les médias, avec une déshistoricisation de la question de la Palestine et de la question de Gaza. Un narratif qui a systématiquement effacé les Palestiniens en titrant la guerre Israël-Hamas, en faisant comme s'il n'y avait pas aussi toute une population civile, tout un tas de Palestiniens qui vivent là, et en faisant vraiment comme s'il y avait une symétrie entre Israël et le Hamas, et que c'était juste une guerre entre deux opposants. En réalité, il y a une situation où il y a un peuple occupé, il y a un peuple occupant, et il y a des gens qui vivent sous occupation depuis qu'ils sont nés, en fait, dans cette zone, et qui ont été bombardés plein de fois depuis qu'ils sont nés. Donc avec vraiment une déshumanisation des Palestiniens. Mais ce qui était assez marquant dans les médias occidentaux, c'est que cette déshumanisation des Palestiniens, elle passait aussi par une humanisation des soldats israéliens qui les tuent. Avec, par exemple, je me rappelle d'un article dans Le Monde sur ces soldats qui souffrent du PTSD et qui vont faire de l'équithérapie pour se soigner dans un ranch avec des bougies, des chevaux, etc., parce qu'ils sont traumatisés. En fait, le PTSD, donc le choc post-traumatique, il n'existe pas chez les Palestiniens parce qu'il est continu et qu'il n'y a pas le temps de se remettre d'un trauma, que le trauma, il est continuel. Et c'est ce que dit d'ailleurs Samah Jabr, qui est une psychiatre palestinienne. Elle dit en fait, le PTSD n'existe pas pour les Palestiniens. Du coup, voilà, il y a cette question-là. Et il y a évidemment la question du racisme, comment le racisme anti-palestinien, qui est un racisme colonial, qui nie toute existence palestinienne, toute culture palestinienne, tout ancrage des Palestiniens sur ce territoire, etc., a agi avec l'islamophobie, le racisme anti-arabe habituel, etc., sur les plateaux télé. La figure du terroriste qui est convoqué sans arrêt pour parler des Palestiniens. Du coup, voilà, c'était un peu ça, la Palestine dans les médias occidentaux, c'était vraiment la production d'un récit colonial qui efface l'histoire et la vie des Palestiniens.
Vas-y François, je t'en prie.
Oui, c'est peut-être pas exactement ce que tu voulais aborder, mais moi, parmi les gens que j'exècre, ce sont les gens les plus injustes. Bon, les colons. Alors, tu parles beaucoup de colonialisme, ça je suis d'accord avec toi, mais il faudrait que tu parles un peu des colons israéliens, comment ils se comportent. C'est-à-dire que Gaza, alors bon, il y a eu une vengeance, il y avait un truc, mais les colons qui envahissent, qui annexent des terres palestiniennes sans en avoir le droit, même aux yeux de la loi israélienne, hein, parce que ça, mais ça, je pense que ça a été occulté. Est-ce que tu peux rétablir un peu?
Ouais, complètement, je suis d'accord avec toi. Il y a eu un focus sur Gaza, mais qui a effacé aussi totalement la situation du reste de la Palestine. Aussi bien les Palestiniens de 48 qui vivent dans l'État d'Israël que les Palestiniens de Cisjordanie qui, eux, se sont vus de plus en plus être la cible de pogroms, d'attaques par les colons israéliens et d'attaques pas très spontanées parce que accompagnées par des soldats israéliens aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une violation même du droit israélien lui-même par les colons et les soldats israéliens. Et donc il y a un peu un sentiment d'impunité totale qui a été déclenché avec Gaza, qui fait que évidemment la colonisation, elle était déjà hyper violente en Cisjordanie avant le 7 octobre 2023. Mais qu'il y a vraiment, une libération de cette violence qui est vraiment spectaculaire et tue complètement par les médias. Avec ce qui n'a pas été dit, c'est qu'il y a des camps de réfugiés dans la Cisjordanie qui ont été quasiment entièrement détruits par Israël. Des colons qui se sont attaqués à des gens, qui ont détruit des maisons, incendié des véhicules, des terres palestiniennes, etc. Et plus de 700 Palestiniens qui ont été tués dans les deux premières années du génocide. Et ça, c'est quelque chose qui continue, avec aussi des arrestations. Déjà, le nombre de prisonniers politiques palestiniens, il a atteint les 11 000. Du coup, voilà, il y a vraiment aussi cette continuation de l'oppression contre tous les Palestiniens dans toute la Palestine, y compris les réfugiés qui sont à l'étranger, quoi.
Et pour revenir, parce que je pense que tout à l'heure on parlait du fait qu'au-delà des statistiques, il faut comprendre concrètement en fait ce qui se passe sur place au niveau humain, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de guerre Israël-Hamas, on a presque l'impression qu'on a deux groupes armés qui se font face et qui se tirent dessus, un peu comme il y aurait le front en Ukraine entre Poutine et enfin la Russie et l'Ukraine. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas du tout le cas pour la Palestine. Et que quand je parlais des offensives qui avaient été lancées par Israël, donc d'abord sur Gaza City, ensuite sur Deir al-Balah, puis sur Khan Younes et Rafah, à chaque fois il y a des ordres d'évacuation des populations qui sont repoussées vers l'intérieur, enfin vers le littoral de Gaza, et les avancées israéliennes se font sans possibilité de retour, parce que comme j'ai dit, quand il y a des civils qui essaient de rentrer chez eux pour récupérer leurs affaires, ils se font tirer dessus, et même des enfants se font tirer dessus par des snipers israéliens et qui après font l'objet des fameux reportages dont tu parlais, où ils disaient je suis traumatisé d'avoir tiré sur une petite fille de 8 ans avec mon sniper, vraiment qui t'avais le choix aussi de pas tirer, quoi. Donc donc voilà, faut bien comprendre que à chaque avancée de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, on pousse la population avec d'abord des ordres d'évacuation, des bombardements des infrastructures de soins et les bombardements des sites de refuge et du peu d'aide humanitaire qui arrive à passer aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup ça. C'est quand il y a des Palestiniens qui arrivent sur les sites d'aide humanitaire pour essayer de récupérer la nourriture ou à boire, etc., il y a l'armée israélienne pour leur tirer dessus. Et que là où le génocide à Gaza a battu beaucoup de records, il y a aussi le record d'aide humanitaire, enfin d'individus participant à la distribution d'aide humanitaire qui ont été tués par l'armée israélienne dans le cadre d'un conflit armé, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Et concernant la deuxième des choses sur la Cisjordanie, c'est vrai que c'est une question qui forcément, au vu de ce qui se passe à Gaza, est moins médiatisée, parce que ce qui se passe à Gaza est plus...
Parce qu'elle se passait en Cisjordanie avant 2022.
Mais il faut vraiment se rendre compte pour
et là, c'était vraiment l'impunité et l'omerta occidentale de la plupart. Et
ça l'est toujours.
La plupart. Il faut pas être trop injuste avec certains médias qui sont très courageuses. Mais c'est vrai que les le mainstream en France, c'est vraiment à dégueuler, quoi. Ouais. On a une presse qui est à vomir.
Oui, et puis c'est vraiment des histoires de vie qui changent du jour au lendemain. Comme tu dis, il faut bien garder en tête que les colons israéliens qui avancent en territoire palestinien pour s'emparer d'endroits sont accompagnés par l'armée et toute forme de résistance de la part d'un Palestinien équivaudra soit à une exécution, soit à un emprisonnement, soit à de la torture systématique dans les prisons israéliennes.
Et je pense que cela, tu me diras, je pense que cela présage du véritable projet qu'il y a dans la tête des dirigeants israéliens, qui est d'éliminer toute forme de palestinianisme, je ne sais pas comment
palestianité,
on peut dire. Palestianité, voilà. Et d'envahir ce pays, de le faire un territoire entièrement israélien. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Oui, c'est complètement ça. Hein. C'est l'annihilation. L'annihilation. Moi, j'arrive plus aussi. Du peuple palestinien, complètement. Mais avec un projet. Un projet expansionniste, c'est-à-dire que là, les gens qui sont au gouvernement israélien actuellement, ils ne veulent pas se contenter de voilà. La Palestine historique, ils veulent aussi un bout de la Jordanie, un bout du Liban, un bout de la Syrie. Ils ont d'ailleurs avancé en Syrie pendant, ouais. Pendant ces dernières années-là. Ils ont bombardé la Syrie et ils ont avancé dans le Golan. Il y avait déjà le Golan qui était occupé et ils ont avancé. Liban
le Golan,
a été...
Tu peux, pour les auditeurs, préciser où c'est le Golan et qu'est-ce que ça représente aussi ?
Le Golan, c'est la région sud-est de la Syrie. Et c'est le nord-est en fait, de la carte de la Palestine. Et où ce territoire il a été occupé par Israël en 67 avec aussi le Sinaï égyptien, mais finalement le régime égyptien depuis a négocié avec Israël pour récupérer le Sinaï, mais sans les Syriens, sans les Palestiniens. Du coup, la normalisation là, entre l'Égypte et Israël et cette collaboration dans le blocus de Gaza, elle est aussi liée à cette histoire-là, le fait que l'Égypte ait abandonné les autres pays pour récupérer son propre bout de territoire et laisser les autres dans cette occupation. Et on le voit dans les dernières semaines, le Liban a encore été bombardé par Israël. Du coup, c'est facile de voir à quel point Israël est un danger en fait pour tout le Moyen-Orient, à quel point il y a un nombre de pays qui se sont fait bombarder dans les deux dernières années qui prouvent qu'en fait il n'y a rien qui les arrêtera si ce n'est le rapport de force, les sanctions internationales. Et voilà, en fait, s'il n'y a pas de force d'interposition, Israël n'a aucune raison de s'arrêter, en fait.
Et petite précision sur le plateau du Golan, je pense quelques faits qui sont bien rappelés, parce qu'il y avait eu un moment dans les médias, puisqu'on parle de narratif, le narratif de Israël, en fait, bombarde la Syrie pour protéger les minorités russes qui sont présentes dans les territoires frontaliers avec Israël. Alors, c'est évidemment faux, et d'autant même que, lors de la première annexion du Golan, il y avait eu un référendum local qui avait été tenu pour savoir si les populations voulaient être attachées à l'État d'Israël, et eux-mêmes avaient voté majoritairement non. Mais Israël continue d'utiliser ce prétexte, en fait, pour justifier ses frappes pour la région de la Syrie. Mais en fait, c'est quelque chose que Israël fait très régulièrement, c'est-à-dire de frapper en territoire libanais, syrien ou même en Iran. Parce qu'on rappelle qu'il y a eu des frappes jusque dans Téhéran, qui est quand même la capitale, pour assassiner donc soit des hauts dignitaires du Hezbollah, du Hamas, ou de l'état-major iranien, ou même des scientifiques iraniens qui travaillent dans le nucléaire. Parce que bon, ça c'est encore un vaste sujet sur lequel on pourrait faire une émission tout entière, à savoir donc la question du nucléaire iranien et de la position d'Israël là-dessus. Mais pour revenir peut-être plutôt sur les narratifs concernant Gaza, c'est vrai que quand j'ai travaillé à préparer l'émission et à me replonger dans tout ce qui avait été dit un petit peu depuis le début du conflit, il y avait des choses qu'on entendait facilement en 2023 que je me suis dit « Ah, c'est vrai que ça, j'ai l'impression de ne pas l'avoir entendu récemment ». Il y avait par exemple cette idée que le ratio des morts en Palestine était à peu près équilibré entre un civil pour un combattant. Ça, c'est des trucs que j'avais vu passer à la télévision, alors qu'en fait, on sait que c'est totalement faux. 70% des morts à Gaza sont des femmes et des enfants, de toute façon. Donc, c'est certainement pas des combattants du Hamas ou je sais pas quoi. Il y avait eu aussi, quand il y avait eu les alertes sur la famine qui avait passé le dernier niveau de dangerosité selon les ONG qui sont en charge de quantifier les situations de famine dans le monde. Il y avait l'idée que si l'aide humanitaire n'arrivait pas aux Palestiniens, c'était à faute du Hamas, en fait, qui s'accaparait l'aide humanitaire et qui refusait de le distribuer. Donc ça, c'est pareil. Ça a été débunké. La question des hôpitaux, la question des organisations internationales qui seraient infiltrées par le Hamas pour donner du grain à moudre aux terroristes du Moyen-Orient face aux gens de l'armée la plus morale du monde, qui, elle, ne serait donc coupable d'absolument rien. Bon, etc., etc.
En fait, c'est assez fascinant comme ce qu'on a sur nos plateaux télé, c'est vraiment directement le discours israélien.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il n'est même pas mâché, digéré, recraché, il est juste...
tel quel, nature.
Voilà, reposé comme ça, au point que le porte-parole de l'armée israélienne a été invité sur les plateaux télé sans contradiction, de façon quasi systématique, quand il fallait parler de la question. Ce qui fait qu'on a vraiment un discours qui est le discours israélien. Donc là, ça se temporise un peu, parce que maintenant, la situation, elle est quand même assez claire. Largement que voilà, il y a eu un massacre des populations, etc. Et donc là, c'est moins la mode, en fait, d'être sur ce discours de départ. Maintenant, même des gens qui avaient soutenu très fort le génocide, ils disent « Oh, mais Israël, c'est un état d'extrême droite et tout », mais toujours avec l'idée qu'on va protéger Israël en disant que c'est juste une dérive de l'extrême droite. Voilà. Alors qu'en réalité, il y a eu un bloc complet des sionistes pour l'État d'Israël et avec le discours du Hamas, des otages, etc. Finalement, il y a quand même pas mal d'otages qui ont été tués par Israël, qu'ils ont laissés dans un territoire sous la famine. Je veux dire, ils n'ont jamais vraiment rien fait pour les otages. Et ça montre que finalement, je veux dire, à chaque fois qu'il y avait une négociation avec... ils ont tué les négociateurs du Hamas qui leur auraient permis de récupérer les otages dans le premier ou le deuxième cessez-le-feu. Donc ils ont vraiment tout fait pour ne pas récupérer les otages, parce que c'était un argument très pratique.
C'est un argument populiste.
Et cet argument, il a servi un peu partout dans le monde à justifier ça, quoi. Donc, voilà.
Et c'est intéressant que tu abordes cette question-là, parce que en fait, on nous a aussi parlé d'une fameuse opposition israélienne à Netanyahou et en tout cas aux agissements de ce gouvernement. Il faut bien comprendre que l'opposition en Israël a été contre la politique de Netanyahou vis-à-vis des otages israéliens. Mais elle n'était pas du tout contre la guerre ou contre le fait de répliquer au 7 octobre, hein, si je reste dans le narratif israélien, bien évidemment. Mais voilà, l'opposition à Netanyahou, elle n'était pas sur le fait qu'il était en train de commettre un génocide en Palestine. Elle était sur le fait... qu'ils estimaient que sa politique vis-à-vis des otages israéliens n'était pas assez orientée vers le fait de retrouver les otages. Et c'est vrai qu'un autre point qui est important et qu'il faut comprendre aussi sur ce qui se passe en Palestine, sur pourquoi est-ce qu'on a un niveau de violence qui a été aussi élevé de la part de Tsahal, c'est que, comme tu l'as dit, ils ont déjà fait des incursions terrestres dans la bande de Gaza, mais c'est très rare, parce que dans les précédentes occurrences des incursions terrestres de Tsahal dans la bande de Gaza, ils avaient eu énormément de pertes, et le combat urbain, c'était quelque chose qui leur avait fait mal un peu d'un point de vue militaire. Et donc, ils ont appliqué une politique du zéro mort, où c'est-à-dire qu'en fait, ils se contentent juste de littéralement raser des zones entières, des quartiers entiers, voire des arrondissements, des villes entières, dans le but de préserver la vie des soldats israéliens au détriment de celle des Palestiniens. Et on voit bien que la vie d'un Israélien ne vaut même pas celle de 1000 Palestiniens, quoi. Il y a une disproportion dans le rapport à la vie des Palestiniens qui est vraiment à un niveau de, voilà, où c'est des vies dispensables, quoi, finalement.
Après, que vaut une vie dans le capitalisme, finalement, parce que, je veux dire, toute l'histoire d'Israël, la Palestine, a montré à quel point il y avait un mépris pour la vie palestinienne, évidemment. Mais finalement, cet État d'Israël a aussi un mépris pour les vies israéliennes, avec une hiérarchie aussi raciale à l'intérieur même des Juifs, hein, avec une hiérarchie où les Juifs européens sont les plus favorisés, et où les personnes juives noires se retrouvent refusées à l'hôpital. Avec un racisme qui se reconfigure de la même façon qu'en Occident. Ce que j'ai vu moi aussi ces deux dernières années, c'est qu'en fait, Israël s'en fichait complètement des otages et Israël s'en foutait des Israéliens. Et ce qui fait que, en réalité, bien sûr, ils s'en foutent des Palestiniens, ils s'en foutent des Israéliens. Mais. Ils n'ont pas de mal à enfermer des jeunes Israéliens qui sont des réfusniques, des objecteurs de conscience et qui ne veulent pas aller faire la guerre, par exemple. Et ils les mettent en prison et ils s'en fichent de la vie de ces jeunes, de leur gâcher la vie, ils s'en fichent. Comme je disais tout à l'heure, ils s'en fichaient de récupérer les otages. Donc il y a aussi un truc qui est de l'instrumentalisation, mais qu'en fait, leur projet d'expansion et de domination, ils passent au-dessus de la vie et de toutes les vies. Et bon, particulièrement des Palestiniens, parce qu'il faut s'en débarrasser pour mettre à exécution le projet dans sa totalité, quoi. Mais voilà, je pense qu'il faut avoir conscience aussi que le capitalisme, de toute façon, néglige toutes les vies. Il n'y a pas de... C'est une instrumentalisation, en fait, des uns et des autres, mais... Voilà,
Ouais, puis c'est des systèmes, puisque tu parlais de colonialisme en début d'émission, colonialisme et capitalisme, on sait que c'est des systèmes qui sont imbriqués, qui fonctionnent ensemble, et on sait que Israël, on le voit bien avec les citations que tu avais données en début d'émission, Israël c'est aussi un moyen pour l'Occident de garder sa place dans le Moyen-Orient, et de pas juste le laisser aux autres grandes puissances locales que sont principalement l'Iran et l'Arabie Saoudite.
Non, il y a aussi... Ça me fait du bien que tu parles un peu du capitalisme, parce que... Ce qui est très marrant, c'est quand même que tout le monde fait semblant de l'oublier, ça. Trump, qui est quand même, à mon avis, un bouffon capitaliste vraiment extraordinairement caricatural, avait quand même projeté de faire une espèce de Riviera pour richissime sur les décombres de Palestine et de Gaza. Est-ce que tu as des renseignements là-dessus? Est-ce que tu...
François, ce que je te propose, c'est qu'on aborde cette question dans la troisième partie de l'émission, qui est dédiée à l'actualité de la Palestine et notamment au plan de paix
géopolitique.
Voilà, la partie plan de paix de Donald Trump.
D'accord.
Voilà. On va marquer une courte pause et on vous retrouve après. Cette pause.
Today there's a lot of drones. I'm gonna sing a song today with drone. شيل يا جمالي شيل يا حوطك بالله دم الشايد معطر بالهيل ليل يا نيلو ويل ويل عالظالمي ويل ويل ومين لا أسهر على نجوم الليل
Still gotta hustle. Say they really love you, but the world watch you struggle. Power to the people, we got God, we the muscle. Still reporting live from this concrete jungle. Hey kids, what's flying in the air? A drone, a missile, it's a nightmare. Community guidelines, so they won't share.
Don't talk about that.
Got the whole world scared. What you mean you ain't trying to pick sides? What you mean we just better be quiet? What you mean gotta open up your eyes? Free Congo, free Sudan, free Palestine.
From the river to the sea.
No, I in we.
No babies gotta eat.
And we all gotta speak.
Say her name, say her name. Say her sister, name. Gotta watch your back. Ain't that a shame? Brothers, where you at? Where you at? It's insane. See some fruits hanging and they looking really strange.
Don't be weird, bro.
The least respected, the most neglected. And all you wanna do is see us naked. Don't need your diamonds, we need protection. We need you rhyming, do not reject this. It's up to us to make a change. Misplaced hate in every single race. Such a disgrace, they playing in our face. We gotta make a way, we gotta make some changes.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur internet pour le reste du monde. Je suis toujours en compagnie de François et Monira pour cette troisième et dernière partie d'émission. Monira, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette deuxième musique ?
Cette musique, elle est assez intéressante. Elle est faite par Ahmed, qui est un prof de musique à Gaza. Et en fait, ce que disent les Gazaouis quand on les écoute, c'est que le bruit des drones qui planent au-dessus de leur tête 24 heures sur 24 est devenu un bruit insupportable, un peu de torture et qui empêche de réfléchir. Et en fait, lui, ce prof de musique palestinien, il a décidé qu'il allait utiliser ce son de drone pour ses cours de musique. Et donc, il a repris cette chanson, qui est une chanson traditionnelle palestinienne, pour la chanter sur fond de drone. Du coup, c'est un peu... je trouve que ça montre un peu comment les Palestiniens arrivent à survivre au pire en essayant d'en faire quelque chose de positif. Et en fait, il y a plein d'images où, du coup, ils chantent avec des enfants. Parce qu'il a continué à donner des cours de musique à des enfants malgré le génocide, sous des tentes, dans des conditions vraiment difficiles. Et du coup, voilà, je trouve que cette chanson, c'est un hommage à d'autres formes de résistance qui sont très présentes aussi en Palestine.
Ouais, et d'essayer de continuer de mener une vie, en fait, par-delà le génocide en cours.
Et ça, pour les Palestiniens, vivre, c'est déjà une résistance, quoi. C'est-à-dire célébrer la vie...
Bah surtout quand on essaie de nous faire disparaître en tant que groupe, continuer à exister culturellement aussi, c'est une manière de lutter contre le génocide.
Complètement.
Donc dans cette troisième partie, on voulait revenir un petit peu sur ce qu'il y a de plus actuel après ces développements un petit peu historiques. Donc là, une question qui a récemment beaucoup animé les médias et l'opinion publique française, c'est celle de la reconnaissance de l'État palestinien. Alors, il faut dire qu'Emmanuel Macron a beaucoup tardé, qu'il y a eu des reconnaissances bien avant celle d'Emmanuel Macron. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette question et expliquer aux auditeurs les enjeux ?
Oui, en fait, le 22 mai 2024, donc il y a un an et demi à peu près, il y a 146 pays qui ont reconnu l'État de Palestine. C'était une reconnaissance symbolique, bien sûr, en plein génocide. On reconnaît l'État de Palestine, c'était un peu dire on reconnaît l'existence des Palestiniens et la nécessité de faire quelque chose pour faire arrêter ça. À ce moment-là, la France a pas voté pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Et Macron a un peu mis en scène sa reconnaissance en l'annonçant plusieurs fois, à plusieurs mois d'intervalle, etc. Puis finalement, cette reconnaissance, elle allait quand même avec un certain nombre de conditions. Et ces conditions, c'était notamment la normalisation de l'Arabie Saoudite avec Israël, des conditions en fait qui enferment encore les Palestiniens. C'est-à-dire que jamais l'Occident ne fait quelque chose sans que ce soit un piège pour les Palestiniens.
Et donc, ça, c'est la géopolitique. Hein.
Bon. C'est ça. Et donc là, évidemment, les Palestiniens, évidemment, ils sont méfiants de tout ce qui vient de l'Occident parce qu'ils ont eu... Oslo qui leur a montré à quel point les accords d'Oslo, ça a été une façon de réorganiser l'occupation sous prétexte d'obtenir la paix et la reconnaissance de la Palestine. Donc en réalité, cette reconnaissance de la Palestine, il devrait déjà y avoir un État palestinien depuis Oslo.
Et même donc, depuis 48.
Et depuis 48, et donc ça n'a aucun sens, cette reconnaissance de la Palestine, qui n'est pas adossée à un territoire en particulier, qui ne dit pas quelle souveraineté, sur quel territoire, qui ne propose pas de protection pour les citoyens palestiniens, et qui s'adresse en fait à juste une opinion internationale, mais finalement qui s'adresse pas tellement aux Palestiniens. Et du coup, les Palestiniens, c'est pas ce qu'ils demandent. Ils demandaient juste l'arrêt du génocide, l'arrêt de l'occupation, de la colonisation et de l'apartheid. Et donc, toute autre proposition que l'arrêt de la colonisation, du génocide et de l'apartheid, ben, c'est pas ce qui va dans le sens des Palestiniens. Du coup, voilà, c'est encore une façon de maîtriser l'agenda politique sans les Palestiniens. Sans les consulter et en maintenant cette autorité palestinienne qui n'a plus aucune légitimité depuis très longtemps puisqu'elle n'est pas élue, mais qui collabore avec Israël. Et en fait, c'est ça que l'Occident obtient à chaque fois, c'est un peu la protection d'Israël. C'est-à-dire que dans Oslo, c'était ça, c'était une autorité palestinienne qui va assurer la sécurité d'Israël. Et donc, c'est ce qui, dans le discours, de toute façon, dans le discours colonial en général et dans le discours de Macron en particulier, passe avant tout, puisque Macron s'est même justifié de reconnaître l'État de la Palestine pour protéger l'existence de l'État d'Israël, etc. Donc, on est toujours dans un paradigme colonial. Le travail de Macron, ça aurait été de mener un rapport de force, d'imposer des sanctions à Israël pour obtenir l'arrêt du génocide, l'arrêt de la colonisation, etc. Et lui, il a choisi de rester vraiment dans le colonialisme pur et de encore prendre des décisions, d'essayer en tout cas d'influer sur les décisions contre les Palestiniens en réalité.
Et alors, un truc qui est intéressant concernant la reconnaissance de la France, c'est donc pour rappeler quand même que la France, alliée historique d'Israël, qui leur fournit des armes ou des munitions, de l'équipement en pièces détachées, de la logistique, etc. Donc, ont quand même une aide militaire non négligeable. Quand Emmanuel Macron a annoncé qu'il comptait reconnaître officiellement l'État de Palestine, Netanyahou s'est tout de suite braqué et lui a dit qu'il était en train de nourrir l'antisémitisme. Donc on a voilà cette instrumentalisation classique de l'antisémitisme par la diplomatie israélienne. Et donc c'est intéressant de voir quand même que même un allié historique d'Israël qui aurait la moindre toute petite déviation par rapport à la ligne imposée par le gouvernement israélien, c'est déjà trop quoi. C'est même cette simple reconnaissance qui est censée être dans le récit de la solution à deux États. Voilà, la solution à deux États, on en a un peu plus parlé dans les précédentes émissions, mais ça c'est vraiment le fer de lance de la colonisation israélienne, c'est cette pseudo-solution à deux États qui n'a jamais été respectée nulle part et n'a jamais eu pour objectif d'être respectée, elle a juste eu pour objectif de masquer et de normaliser la colonisation israélienne. Donc ça, voilà, on l'a développé dans les précédentes émissions, et même respecter cette espèce de faux semblant de solution à deux États, c'est déjà trop en fait. Et donc même Macron, qui a été un soutien à Israël de la dernière heure, c'est déjà trop pour Netanyahou qui finisse par reconnaître l'État de Palestine. Et c'est quand même bien de rappeler que oui, même si il a fini en fait à cause de la pression que ça représentait, par reconnaître l'État de Palestine, comme tu dis, c'est une reconnaissance qui est à peine symbolique, puisque ça ne signifie rien pour les Palestiniens concrètement. Et depuis le troisième cessez-le-feu qui fait suite donc à la proposition du plan de paix de Donald Trump, faut savoir qu'il y a des Palestiniens qui continuent de mourir chaque jour. Je crois qu'on a plus d'une centaine de morts hein, depuis le début du troisième cessez-le-feu. Cessez-le-feu d'ailleurs qui avait des conditions absolument abracadabrantesques et je pense que à la base Trump et Netanyahou s'attendaient peut-être à ce que le Hamas refuse et que c'était ça leur plan, c'était de proposer un truc qui était tellement grossier que en fait le Hamas pourrait jamais l'accepter et donc ça pourrait justifier la reprise des opérations militaires. Et ils ont été pris de court parce que le Hamas a fini par accepter le plan de paix. Alors après, c'était Netanyahou qui voulait plus. Donc il y a eu quand même la libération de certains prisonniers et des échanges d'otages. Il y avait cette idée que la bande de Gaza, elle serait administrée par un espèce de comité qui serait sous supervision internationale. Donc un espèce de bureau de la paix qui serait dirigé par Donald Trump. Alors là, je sais pas si vous visualisez ce que c'est pour un Gazaoui de se dire je vais être supervisé par Donald Trump, enfin bon voilà. Et la démilitarisation pardon du Hamas et la disparition du Hamas en tant qu'acteur politique, parce que c'est ça aussi un des objectifs, et ça c'est un truc qu'il faut comprendre, c'est que un des objectifs d'Israël c'était de détruire le Hamas, mais vraiment à un niveau physique, de tuer ou capturer l'intégralité des combattants du Hamas et de faire disparaître le Hamas en tant qu'acteur de la vie politique palestinienne. Parce que bon, évidemment, nous, on est sur Radio Libertaire, on est un groupe de la Fédération anarchiste, donc ai-je vraiment besoin de dire qu'on ne partage pas les idées du Hamas ? Malgré tout, même si je ne partage pas leurs idées, je suis obligé de constater en fait que c'est un groupe de résistance parmi les différents groupes de résistance palestiniens. Il y en a d'autres avec lesquels j'ai évidemment beaucoup plus d'affinité que le Hamas, voilà. Mais que le fait est que c'est un groupe de résistance qui posait problème à Israël pour tout un tas de raisons et dont l'objectif était quand même de se débarrasser. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce plan de paix, sur, on va dire, peut-être la question est un petit peu trop vaste et tu me diras c'est le cas, mais quelle perspective ça donne réellement aux Palestiniens et comment tu vois les choses évoluer et vis-à-vis notamment des réactions internationales. On a l'impression qu'on est un peu dans une zone de flou là, dans ce mois d'octobre 2025. Moi, j'avoue que je sais pas trop dans quelle direction ça va tout ça. Est-ce que toi, t'as une idée peut-être un peu plus précise de la suite des événements ?
En fait, vraiment, moi, mon idée, c'est que tout ce qui est proposé par l'Occident pour Israël-Palestine, c'est toujours contre les Palestiniens. Et donc il y a vraiment, les Palestiniens l'ont compris de toute façon, hein, c'est que ça va toujours dans le sens de l'ordre colonial et capitaliste, et du coup ça va jamais dans l'intérêt des populations palestiniennes qui se voient proposer des plans de paix par des ennemis politiques, c'est-à-dire que ces deux ans de génocide, les États-Unis ont voté énormément de dons d'argent en milliards à l'armée israélienne, à Israël. La France a livré régulièrement des armes à Israël, a menti effrontément quand il y a eu des questions au gouvernement sur cette question des livraisons d'armes. Et donc, ces gens qui viennent proposer la paix alors qu'ils ont fourni les armes qui ont tué les Palestiniens, évidemment que ça ne peut pas se voir d'un bon œil, quoi.
La presse, les médias pourris parlent évidemment du prix Nobel que voudrait Trump. Alors ça, c'est tellement gros, ça dégouline tellement de mélasse, ce truc-là. C'est vrai que c'est hyper dur de voir à quel point les gens qui écoutent ces chaînes de désinformation peuvent être stupides pour gommer des trucs pareils. Voilà. Alors, toi, dis-moi, on en avait parlé un peu. Je voudrais ça que tu dans tes pronostics un peu, parce que là on en est réduit à ça. Hein, qu'est-ce qu'ils vont faire les Israéliens? Qu'est-ce que les Palestiniens vont réagir? Qu'est-ce que va faire Trump, etc. Ça, on peut pas le savoir. Hein, franchement, je pense pas qu'on puisse le savoir là maintenant. Mais moi, il y a une question qui me taraudait. C'était pourquoi est-ce que le Hamas ou une partie du Hamas a déclaré ouvertement le conflit en le 7 octobre. Je ne peux pas imaginer que ce soit de la sauvagerie. Ça n'existe pas, la sauvagerie. Tout est géopolitique. Quel était le but, là ? À ton avis, bon, hein, parce fait, que tu n'as pas forcément des renseignements.
Ouais, après, déjà, bon, déjà, ce qui est important de rappeler, ce qui a été occulté, mais parce que c'est le discours israélien qui a prégné, qui a été le seul écouté, c'est que en fait, il y avait plusieurs organisations palestiniennes qui ont organisé les attaques du 7 octobre. Et donc, ce n'est pas juste le Hamas, c'est plusieurs organisations palestiniennes qui ont... alors, ce que, en tout cas... Ce que ces organisations palestiniennes disent, c'est qu'elles ont visé des objectifs militaires israéliens, puisqu'il y a un certain nombre de kibboutz qui entourent la bande de Gaza, qui sont des centres de commandement militaire. Et donc, eux, ils avaient un objectif militaire et de libération de la bande de Gaza contre le blocus. Donc, évidemment, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'une opération... selon du point de vue où on se place, on peut la considérer comme une opération de gens qui résistent à quelque chose qu'ils sont en train de vivre, c'est-à-dire un blocus depuis 2006, enfermé derrière un mur, des barrières, etc. Ou avec le parti pris de l'Occident de dire bah, en fait, c'est juste des terroristes qui tuent pour tuer. Et en fait, moi, je te rejoins, il n'y a jamais de... En fait, c'est une façon de ne pas expliquer et de pas circonstancier les faits. Et c'est, bon, c'est très lâche, mais ça va dans le sens du colonialisme et du capitalisme, en fait, de rien vouloir comprendre, expliquer, mais juste forcer les gens à penser tous de la même façon. Et ça, ça fait partie de la fascisation mondiale, un peu, d'imposer un discours et de ne pas pouvoir discuter, quoi. Parce que c'est ça que ça a empêché aussi, en fait... Depuis deux ans, les gens ont peur de discuter, en fait, d'échanger, de pouvoir parler des choses. Et donc, il y a un genre de discours hégémonique
tout fait,
qui
tout
se
prêt,
pose et où vraiment... Je ne sais pas si vous aviez vu ça, où une historienne va... elle est invitée sur un plateau et elle essaye de parler vraiment d'un point de vue d'historienne. Donc, elle essaye de raconter des choses. Et en fait, la personne qui l'interview... la laisse pas parler, etc. Et jusqu'à un moment où elle lui demande « Est-ce que vous êtes historienne ?» Parce que moi, oui. Et en fait, c'est-à-dire pas la possibilité juste de dérouler un truc sur lequel elle travaille depuis des dizaines d'années. Du coup, c'est un peu ce qu'on a vu ces dernières années. En fait, l'impossibilité de discuter en dehors du cadre de discussion hégémonique qui a été imposé, quoi.
Mais c'est intéressant ce que tu disais sur le terrorisme, parce que c'est vrai que en fait la séquence sur l'intervention israélienne à Gaza et dans le reste du Moyen-Orient, elle s'inscrit dans un continuum de lutte contre le terrorisme mondial initié par les États-Unis, qui est beaucoup plus large, qui est évidemment, alors pour moi, le discours civilisation contre barbarie, c'est un rebranding laïcisé de la lutte historique du christianisme pour sauver le monde et évangéliser les terres sauvages peuplées d'indigènes et de mahométans satanistes, hein, si je reprends la terminologie coloniale, évidemment, de manière caricaturale. Ce rebranding-là, c'est un peu compliqué, je trouve, d'en parler sous certains aspects, parce que d'un côté, nous qui sommes dans des milieux militants et qui avons l'habitude de le critiquer, de le déconstruire, de lire des ouvrages d'auteurs qu'on travaille dessus, etc., ça nous paraît tellement grossier qu'on se dit, mais enfin, on enfonce des portes ouvertes à longueur d'émission. Et en fait, il suffit de parler à quelqu'un qui n'a aucun regard critique sur ça et qui est juste nourri d'informations mainstream, et on se rend compte que c'est prégnant à un point, mais presque émotionnel, quoi. C'est, les gens sont outrés du 7 octobre parce qu'ils se disent, mais mon Dieu, c'est la barbarie qui, comme tu dis, qui tue sans raison. Alors que oui, historiquement, tu analyses n'importe quelle situation dite de terrorisme, ça n'a jamais existé des terroristes qui tuent sans raison. En fait, en réalité, c'est qu'on peu importe la cause qu'on voudrait prendre ou qu'on trouve ça justifié ou pas, dire il n'y a pas de raison, ça n'a jamais existé. Et pourtant, c'est un narratif qu'on nous reprend de manière systématique dans cette histoire de lutte contre le terrorisme. Et c'est vrai que c'est évidemment une part aussi du narratif génocidaire qui vise à déshumaniser les génocidés, en disant de toute façon, c'est pas des êtres humains, c'est des bêtes assoiffées de sang qui ne rêvent que d'une chose, c'est de nous détruire. Et voilà, Israël, et c'est le rempart de la civilisation face à la barbarie du Moyen-Orient.
Bon. Ouais, en fait, ça c'est assez important, je pense, parce que le terrorisme, c'est pas du tout un terme du droit international, par exemple. Mmh. Les crimes contre l'humanité, c'est un terme du droit international, et en face de ça, il y a des condamnations possibles, etc. Le terrorisme, c'est pas du tout un terme du droit international, et donc ça appelle pas à utiliser le droit international, ça appelle à utiliser la force disproportionnée. Ça appelle à la destruction, au meurtre extrajudiciaire, etc. Et donc, c'est toujours ça dont il s'agit dans le terrorisme. En fait, c'est une autorisation de tuer. Et du coup, moi, je fais partie des gens qui pensent que il faut pas utiliser ce terme parce que c'est un terme juste qui autorise la mise à mort et qui permet pas d'obtenir justice ou de la rechercher dans tous les cas.
Oui, alors sur l'utilisation du terme terroriste, c'est vrai qu'il y a des groupes reconnus comme terroristes à l'international, mais c'est jamais reconnu comme terroriste par l'entièreté des États du globe. En fait, c'est toujours circonstancié par rapport à la position dans un rapport de force politique, géopolitique de différents États.
Parce qu'il y a un truc là, on nous le dit souvent, je ne sais plus quel pays d'Amérique du Sud qui sont considérés comme terroristes. Alors, est-ce que c'est par l'ONU? Est-ce que c'est par...
Je n'ai pas l'exemple en tête dont tu parles.
Après, dans ce cadre, du coup, c'est le jeu d'Israël d'essayer de faire placer tout un tas d'organisations palestiniennes sur les listes des organisations terroristes européennes. Et du coup, ben, des organisations comme Adamir qui s'occupe de la question des prisonniers palestiniens, des organisations de solidarité en Palestine. Et en fait, le jeu, c'est toujours de tous les caser sur la liste terroriste. Il y a eu carrément des attaques contre l'UNRWA, qui est l'organisme qui a été créé pour les réfugiés palestiniens en 1949, après la Nakba.
Qu'on nous a dit infiltré par le Hamas, d'ailleurs.
C'est ça. Et en fait, cette organisation, l'UNRWA, elle était censée exister juste quelques mois, le temps que les Palestiniens rentrent chez eux. Voilà. Et en fait, elle existe depuis 77 ans. C'est quand même...
Ah oui, parce qu'ils ne sont jamais rentrés chez eux.
Parce qu'ils ne sont jamais rentrés chez eux depuis 76 ans. Et donc, c'est quand même une dinguerie. Et l'UNRWA subit régulièrement les attaques d'Israël, qui veut faire placer l'UNRWA dans cette catégorie d'organisation terroriste. Et c'est une organisation de l'ONU, quoi.
Bon, après, c'est vrai que voilà, Israël n'a pas ratifié les traités internationaux, donc tout ce qui est Cour pénale internationale, Cour internationale de justice. Ça, c'est des trucs que Israël et les États-Unis n'ont pas ratifié. Donc, techniquement, ils ne tombent pas sous la juridiction de ce droit international. Et c'est là aussi où on voit les limites du droit international, puisque le droit, c'est jamais que l'exercice d'un rapport de force à un moment donné.
C'est-à-dire que le droit international, ça n'a pas d'efficacité si les gens n'y croient pas. Ou que ça nuit à leurs propres intérêts. Donc, là, en ce moment, je pense que le monde s'oriente vers un irrespect total des accords internationaux. Mmh. C'est la loi du plus fort.
Ce qui a toujours été le capitalisme, finalement.
Voilà.
Et alors, on a quelques dissidents, au grand étonnement de pas beaucoup de gens. Ou de beaucoup de gens, pardon. Il y a une nouvelle présidente irlandaise qui est un peu un ovni dans l'Europe.
Elle a une lourde charge, la pauvre.
Ouais,
il y a aussi des...
C'est un peu l'histoire de l'Irlande qui fait ça, parce qu'il y a une solidarité de l'Irlande qui est très forte avec la Palestine, avec carrément Dublin qui a adopté la campagne BDS, la ville de Dublin qui depuis longtemps a adopté la campagne BDS, du coup qui est quand même la capitale de l'Irlande. Et du coup, il y a vraiment un sentiment anticolonialiste très fort en Irlande, mais de par l'histoire... l'histoire de ce pays qui a lutté contre la colonisation, dont les militants anticolonialistes ont été traités de terroristes, ont subi même une racialisation liée à leur identité d'Irlandais. Donc il y a vraiment, je pense que c'est un bon exemple en fait de comment les pays qui ont été colonisés comprennent bien mieux le colonialisme que le reste du monde.
Et tu m'avais parlé de quelques pays, alors je crois que c'était, il y avait l'Irlande, il y avait l'Espagne et les Pays-Bas qui voulaient qu'il y ait des sanctions qui soient prises à un niveau culturel aussi.
Alors peut-être on finit cette émission par quelques avancées quand même de la période,
parce que sinon
on est désespérant.
Voilà.
Et on ne veut pas être désespéré.
On ne veut pas être désespéré.
Si les Palestiniens ne désespèrent pas, nous n'avons pas le droit de désespérer.
Exactement.
Du coup, dans les quelques avancées dont on a discuté comme ça ensemble avant, il y a la libération de Georges Abdallah, bien sûr. 43 ans de détention en France sous pression israélienne et américaine.
Et qui était libérable depuis 25 ans, je crois, à peu près. Et c'est sous pression d'Israël qu'il n'a pas été libéré.
Complètement.
Depuis tout ce temps.
Du coup, il a été libéré en octobre 2025. Il a rejoint directement le Liban, d'où il est issu. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ensuite, il y a eu quand même la libération d'un certain nombre de prisonniers palestiniens par Israël, dont une vingtaine étaient enfermés depuis plus de 30 ans, donc avant les accords d'Oslo. Du coup, il y a quand même, il y a quand même des personnes qui ont été libérées après des décennies de prison, et ça, c'est assez important. Après, dans les avancées, moi, j'ai aussi noté un truc sur le narratif quand même qui, à la fois, a été très censuré dans les médias mainstream, etc. Mais finalement, on n'a jamais autant parlé de la Nakba et de 1948 et de l'occupation, etc. Donc finalement, il y a quand même un récit palestinien qui est revenu beaucoup plus fort et qu'ils n'ont pas réussi à empêcher avec des médias de milliardaires, avec un système politique très complice d'Israël et tout. Ils n'ont pas réussi à empêcher quand même qu'il y ait un narratif sur la Nakba qui ressorte et l'origine coloniale de l'État d'Israël. Donc ça, c'est assez important. Avec une mobilisation jeune et nouvelle qui perdure, c'est-à-dire que même après l'annonce du cessez-le-feu, il y a encore des mobilisations. Il va y avoir une grande manifestation à Paris le 29 novembre pour la Palestine. Donc c'est quelque chose qui baisse pas, notamment dans les universités. Il y a beaucoup de répression dans les universités, mais il y a des mobilisations qu'il faut noter. Et ces flottilles qui ont été quand même des élans internationaux de solidarité avec des personnalités du monde entier qui sont allées essayer de briser le blocus de Gaza, qui ont été arrêtées par Israël, parfois battues, maltraitées, etc. Mais qui ont quand même apporté une lumière sur cette question.
Oui.
Et ça, c'était quand même quelque chose qui était beau. Et après, dans vraiment les pressions populaires, vous avez vu comment la Vuelta en Espagne, le Tour d'Espagne à vélo, s'est terminé.
Avec des drapeaux palestiniens partout.
Des drapeaux palestiniens sur toutes les étapes et vraiment en masse, avec des perturbations d'étapes. Et la dernière étape n'a même pas pu aller au bout.
Avec notre presse qui bêle.
Ouais. Complètement.
Pas de politique dans le sport.
C'est ça, exactement. Du coup, ça, c'était quand même belles images, et c'était quand même une belle réponse à Israël. Et puis, en ce moment, des pressions assez fortes sur l'UEFA pour exclure l'État colonial israélien des instances du football. Même si ils essayent d'écarter ça et que ça ne va pas au bout, il y a eu des prises de parole de sportifs qui ont demandé l'exclusion d'Israël. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe aussi dans le monde du sport.
Ça. Ces sportifs, ils ne comprennent pas ce qui se passe vraiment. L'idéal, ce serait une équipe de football où il n'y aurait pas de joueurs.
Hein? Complètement.
Est-ce que pour terminer cette dernière minute d'émission, parce que nous arrivons malheureusement à son terme, tu aurais une recommandation de lecture que tu voudrais faire à nos auditeurs sur
les questions? Ouais, carrément. Alors, on n'a quand même pas parlé des armes, donc il faut dire quand même qu'il y a eu des grosses mobilisations, notamment à Roissy, contre les livraisons d'armes à Israël, parce que ça, c'est assez important. Et je voulais juste dire un petit mot sur une campagne pour la libération d'Ali.
Les dockers aussi.
Alice, ouais, complètement, les dockers aussi. Ali, c'est un réfugié palestinien qui est né dans le camp de Balata en Cisjordanie et qui a été, en mai 2024, perquisitionné chez lui et arrêté. Il est incarcéré, du coup, en Île-de-France sur injonction israélienne, ce qui veut dire que le dossier est très compliqué parce que c'est Israël qui demande qu'il soit maintenu en détention.
Au secret.
Voilà, sa femme, elle a eu un cancer quelques mois plus tard qui s'est déclenché. Et donc, c'est vraiment une famille palestinienne qui se retrouve dans une galère impossible avec la France qui lui a enlevé son statut de réfugié et qui le maintient en prison. Donc, il y a une campagne de soutien qui peut se suivre sur les réseaux sociaux, tout ça. Voilà. Et puis, la petite recommandation lecture. C'est La fierté de Gaza, donc c'est un livre qui vient de sortir, je pense, il y a moins d'un mois, qui a été écrit par Emmanuel Dror, et qui raconte Gaza avant le génocide, avec Gaza comme lieu de d'effervescence culturelle, avec ses artistes, cette résistance du quotidien, cette résistance culturelle, etc. Et bon, moi j'ai appris plein de petites anecdotes dans ce livre et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vous le conseille, La fierté de Gaza, aux éditions Terre de Feu.
Merci Mounira. Merci
avec
François.
Plaisir. Merci à vous pour l'invitation.
J'espère ne pas te revoir dans un an. Même si...
Ben si, moi j'espère qu'on se reverra dans un an, mais que ça ne sera pas parce que...
Ou en tout cas, ce sera avec de meilleures nouvelles.
Voilà. Ouais. Ouais.
Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la prochaine émission de Pas de Quartier. Mon petit Dijon est tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en 1027. Interrogez les rues d'un gars sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain sur les rainettes pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, bien la tête. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Ou moi, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse contre la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. Moi interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'y aurais cyanure. Ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi qui a laissé ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, s'en exigé, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les buts de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, Sergi des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains.
Il avait son secret, le loup. Et 50 kilos de patates, un sac de sueur de bois, il te sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Un vrai magicien, un jour. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde.
Je pense que quand on mettra les comptes sur l'orbite, ça va.
Mais on va prendre des décisions.
J'ai collé une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner.
Allez. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
La connerie à ce point-là. Moi, je dis que ça devient gênant.
Finalement, c'est un peu sale, tu es dans la vie, non ? Il sert à rien foutre.
J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse.
C'est chouette pour une métaphore, non ?
C'est pas une métaphore. C'est que t'as des phrases.
Enfin, moi, je suis.
Ça, c'est une métaphore.
C'est de bonne que tu as de cracher partout comme la race. C'est excessivement énervant.
Doute bien, t'as des excuses. Tu fais le dernier des métiers et ta mère était le plus beau code vers le tertiaire du département.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
Les dingues, je les soigne.
Je vais lui faire une ordonnance.
Et une scellée. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Pour 4 points de Paris, pour le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.
On m'a coupé, ça va encore tourner autour du trou de porte.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, ça pas envie de tourner.
Je marine dans le pinard comme des scuses en l'autre. On s'en
rempli de globules, c'est du 11,5. Tu causes pas, tu dégueules.
Ouais, Piper.
T'es tendu comme une corde.
Mais non, je suis pas tendu.
Si t'es tendu.
Bah non.
Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. T'as pas entendu, je suis pas tendu.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases.
Ou tu sauves ou je te sauve, on a pris des décisions.
Écoute, on te connaît pas. Et laisse-nous te dire que tu prépares des nuits blanches, des migraines,
attention,
des nervous breakdowns.
Une alerte à la population est en cours.
Tiens, de la part de Mickey Willis.
Oh, fais-moi le malin maintenant! Oh, fais-moi le malin!